La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le camp de base des Belges du bout du monde. Nous sommes ce matin dans l'Himachal Pradesh avec Stéphane Marshall, entrepreneur social, créateur de l'agence Himalayan Écotourisme. Bonjour Tintin.
Bonjour Adrien. Oui, effectivement, c'est comme ça qu'on a l'habitude de m'appeler là-bas.
Ouais, vous n'êtes pas très loin du Tibet non plus.
C'est vrai, voilà, une bonne centaine de kilomètres de la frontière tibétaine, oui.
Oui, vous vivez sur place depuis une dizaine d'années, tellement bien intégré que vous avez fondé une famille.
Oui, voilà, c'est ça. Je me suis marié il y a 6 ans à une fille de l'Himalaya.
Et vous avez 2 petites princesses que nous vous présenterons tout à l'heure. Face à vous, une jeune femme née en Inde, arrivée toute petite au plat pays où elle travaille aujourd'hui pour l'UNICEF. Namasté, Menaka Dumont.
Namasté, Adrien.
Et bon anniversaire.
Merci beaucoup.
C'est formidable. 31 janvier, on peut encore se souhaiter des vœux. Et moi, je vous souhaite plein de belles choses pour votre anniversaire.
Merci beaucoup.
Jeune diplômé de l'IEX.
Tout à fait.
Et c'est la première fois que vous mettez vos pieds dans un studio de l'RTBF.
Oui, après avoir passé beaucoup d'heures en studio à l'IEX, c'est effectivement la toute première fois que je viens dans les bâtiments de la RTBF.
Et voilà, c'est votre cadeau d'anniversaire, cette émission est la vôtre, Menaka. Vous venez de l'autre bout du pays, hein, grand comme 100 fois le nôtre. Stéphane, il est au nord, vous venez du sud.
Du sud-est, tout à fait, Pondichéry.
Ah, ça me dit quelque chose.
Sur la côte, oui.
Ouais. Pas très loin du berceau de notre dernier invité de la saison télé. Pour chroniquer cette émission, une bourlingueuse qui crapahue tous azimuts dans les studios de la RTBF. Bonjour, Franceline Beretti.
Bonjour à tous.
Vous pourrez faire la guide. Hein,
oui, guide qualifié pour les studios de la RTBF, pas de problème.
Pour Menaka Dumont, notre invité aujourd'hui, nous aurons une autre collègue qui viendra nous saluer dans le cours de cette émission. C'est Joël Scorils qui rentre d'Inde où elle a été témoin pour Action d'Amiens.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Notre héros du jour s'appelle Stéphane Marshall. Il habite sur les contreforts de l'Himalaya en Inde, dans l'état de l'Himachal Pradesh. Une région montagneuse, vous êtes à quelle latitude en ce qui vous concerne, Stéphane?
Effectivement, l'Himachal Pradesh, ça veut dire le pays qui est couvert de neige. Donc rien que le nom de l'État renseigne un petit peu quant à sa géographie. Donc c'est un État himalayen avec des altitudes qui vont jusqu'à plus de 7000 mètres d'altitude. Moi je suis dans un petit village qui est perché à 2000 mètres. Au-dessus d'une magnifique vallée, c'est très très beau.
C'est là que vous avez construit votre maison ?
Voilà, j'ai construit ma maison, ça m'a pris 2 bonnes années et c'est pas encore fini. On y travaille encore, il y a encore beaucoup de choses à faire.
C'est un nid en fait, c'est un nid d'aigle, c'est un...
Un nid d'aigle, oui, déjà par sa situation vraiment au-dessus de la vallée. Donc on a la rivière qui est 600 mètres plus bas, c'est vraiment vertigineux. Et alors c'est vraiment isolé. J'ai une petite route qui arrive, mais sinon pour aller jusqu'à la maison, il faut y aller à pied. Et ce qui ne facilite pas la construction, évidemment. Il n'y a aucune machine, on a fait la maison avec 2 truelles, 2 pioches et c'est à peu près tout. Quoi.
Ouais. Les images sont magnifiques, on les a mises en ligne sur lapremière.be et sur la page Facebook de cette émission. Alors, Himachal Pradesh, Francine Beretti, ça veut dire précisément... Terre des montagnes enneigées.
Oui, alors Stéphane vient de le dire, hein, ou terre où il y a de la neige, c'est un peu moins poétique dit comme ça, mais ça signifie la même chose. Il paraît que ça veut dire aussi Deva Bhumi, terre des dieux. C'est un autre nom que j'ai trouvé dans une autre langue. Donc on est là tout près du ciel, hein, les sommets grimpent jusqu'à 7000 mètres. Et puis qui dit neige dit eau. Cet état indien fournit de l'électricité à tout le nord de l'Inde grâce à ses barrages. C'est une ressource importante hein, car la production électrique de cet état correspond à 1/4 de la production nationale, c'est beaucoup. Et puis les rivières dont vous parlez vont alimenter ensuite 2 fleuves indiens mythiques, hein, le Gange et l'Indus.
Oui, alors c'est pas une région de tout repos, c'est plutôt rude, hein, Franceline.
Oui, alors c'est contrasté en tout cas, hein, l'altitude change beaucoup, on ne vit pas de la même façon à 400 mètres qu'à 3000 évidemment. Mais dans les vallées où l'altitude est plus faible, je parle sous votre contrôle hein, Stéphane, oui. Eh bien, on cultive des fleurs, alors des glaïeuls, des œillets, des roses, des fleurs qui sont destinées à l'exportation ensuite. Puis il y a aussi des vergers, et bon, la difficulté difficulté de vivre dans cet état, hein, c'est le transport, la communication, vu les massifs montagneux. Ça peut être aussi un avantage, hein, dans l'histoire, parce que c'est une région qui a été relativement protégée des grandes invasions qui ont touché l'Inde, celle des Moghols, des Persans.
Il y a quand même eu des Britanniques, hein, qui sont passés par là.
Oui, tout à fait. Bah, évidemment, ils sont venus en Inde, hein, les Britanniques. On sait, au XIXe siècle, ils se sont bien installés. Et ils appréciaient beaucoup Shimla, qui est la capitale de cet état de l'Himachal Pradesh. En fait, ils l'aimaient bien parce qu'elle est préservée des grosses chaleurs. C'est une ville à 2100 mètres d'altitude. Alors, les Anglais qui devaient apprécier moyennement le climat tropical quand ils venaient de Londres, eh bien, ils y allaient l'été à Shimla. Et puis, apparaît qu'ils ont transformé cette ville en ville très british, avec des petits cottages, des manoirs de style Tudor dans l'architecture. Et puis, un autre genre d'exil, hein, mais politique cette fois-ci, qui fait que vous connaissez sans le savoir l'Himachal Pradesh, parce que dans cet état indien, il y a aussi la ville de Dharamsala, celle qui accueille beaucoup de Tibétains en exil.
Et entre autres, le Dalai Lama, il y passe régulièrement. Vous êtes allé sur place, j'imagine, Stéphane Marchal.
Oui, j'ai bien sûr visité Dharamsala. J'ai vu la maison du Dalai Lama, mais il n'était pas là quand j'y étais.
Je me permets une anecdote familiale très rapide. Ma sœur, oui, qui va régulièrement en Inde, elle est très branchée ashram, randonnée, etc., est allée un petit matin, mais vraiment par hasard, dans une église de Dharamsala, et elle est tombée nez à nez avec le Dalai Lama. C'est un cadeau de la vie, comme
Oui, comme
franchement, elle ne s'y attendait pas du tout. On va revenir sur votre parcours, Stéphane Marchal. Vous êtes bruxellois. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Déjà, vous aviez une idée derrière la tête, je crois, hein, en faisant des études de géographie, anthropologie.
Disons que j'ai toujours été très sensible aux questions de l'environnement. Et donc, je me relance à l'université dans la faculté des sciences en agro. Mais dès la deuxième année, en fait, je me rends compte que l'environnement, c'est une histoire d'homme, finalement. Et donc, si on veut vraiment faire quelque chose pour sauver l'environnement, pour préserver nos ressources, il faut rentrer quelque part dans les sciences sociales. Et donc la géographie était un petit peu à cheval entre les deux disciplines, tout ce qui est sciences naturelles et les sciences sociales. Donc la géographie est un choix qui s'oriente en fait vers l'environnement. Oui.
Et en 2003, vous allez sur le terrain, premier voyage en Inde, vous avez failli faire demi-tour.
Effectivement, le premier jour, hein, uniquement le premier jour, ça, dès le deuxième jour ça a été, mais c'était un choc parce que effectivement, je n'ai pas été du tout pris dans les circuits touristiques traditionnels. Et bon, l'Inde d'il y a une quinzaine d'années, là maintenant, était vraiment dur à voir.
Ménec Adumont, vous avez fait le chemin inverse. Hein. Vous êtes née en Inde, vous êtes arrivée toute petite en Belgique. Vous aviez quoi, 2-3 ans ?
2 ans et demi, oui.
Ouais, ouais. Vous avez redécouvert l'Inde à la fin de vos études.
Tout à fait. Donc j'ai redécouvert l'Inde juste à la fin de mon diplôme, où j'ai eu une envie soudaine de retourner, de retrouver mes racines. Et donc, comme Stéphane a dit, effectivement, le premier jour, c'est pas facile.
Vous n'avez pas voulu rentrer quand même ?
Un petit peu. Ouais. J'avoue que j'ai directement trouvé un cybercafé pour envoyer un mail à ma maman en disant « Maman, c'est horrible, il y a des gens partout, il fait chaud, je ne sais pas si je vais tenir 5 semaines.
Ouais, » Surtout que vous avez grandi à Belœil, au pied du château de Belœil. Quand on se retrouve à Pondichéry, c'est pas pareil.
C'est pas facile, non. J'ai grandi dans un tout petit village avec... Dans notre rue, il y avait quoi, 10 maisons. Et puis là, je me retrouve avec plus ou moins 1000 personnes autour de moi qui nous regardaient. Parce que j'ai eu l'occasion de voyager avec une blonde aux yeux bleus. Et en Inde, c'est pas facile, à mon avis, d'être blond. Et donc voilà, non, c'était assez dur au début. Mais Stéphane l'a si bien dit, le lendemain, c'est fini. Oui. Là, cette impression est oubliée et on tombe amoureux du pays.
Nous en reparlerons évidemment tout au long de cette émission. Dans l'immédiat, on va écouter un morceau tout à fait mythique sur la première. C'est Indian Vibes, un 45 tours de 1969, remixé par le célèbre DJ Bob Sinclair sous le pseudo de Matar. Ça donne un côté très dansant et world music au sitar. Écoutez, c'est très très sympa.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde ? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Avec ces Indian Vibes de Matar, nous sommes bien dans le ton de cette émission. Là, il n'y a pas d'erreur. Nous sommes en Inde où vit notre Belge du bout du monde, Stéphane Marchal, fondateur d'Himalayan Écotourisme.
Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jovenot.
Alors nous sommes ce matin dans l'état d'Himachal Pradesh. Comment est-ce qu'on y accède, Stéphane ? En venant de Bruxelles, c'est un vol vers Bombay, vers... Qu'est-ce que vous recommandez comme itinéraire ?
En venant de Bruxelles, bon, forcément il faut prendre le vol vers Delhi. Donc c'est l'aéroport à partir duquel on se déplace vers l'Himachal. Maintenant, bon, certains me diront que c'est très loin et que c'est pénible. Mais bon, pour nous, finalement... c'est 12 heures de voiture, c'est pas très loin, mais bon, vu que les routes qui traversent l'Himalaya ne sont pas de très bonne qualité. Forcément, ça prend un peu plus de temps. Donc, il y a quoi, 400 km à vol d'oiseau.
Et pour grimper jusqu'à votre petite maison là-haut sur la colline, une région reculée qui vit de l'artisanat et de l'agriculture, ce n'est pas nécessairement représentatif du reste de l'Inde, Francine Beretti.
Ben non, parce que cette région, enfin l'état de l'Himachal Pradesh, il est plutôt riche par rapport au reste du pays quand on regarde les indicateurs. En tout cas, hein, c'est le quatrième état au niveau fédéral en termes de revenus par habitant. Alors on reste en Inde hein, quand même. L'agriculture, vous l'avez dit, occupe la plupart des gens, les trois quarts des habitants. Ils cultivent bien des céréales, des pommes de terre, des fruits aussi comme les pommes, des légumes et puis du thé et des pistaches. Alors il y a de l'élevage pour compléter tout ça, des moutons, des chèvres. Et en termes d'activité, on trouve un petit peu d'industrie, pas grand chose. Hein. Là, toute la région, je vous le disais, c'est qu'elle produit beaucoup d'électricité. D'ailleurs, il paraît que tous les villages ont le courant. Je ne sais pas si c'est
oui,
vrai,
c'est
Stéphane.
Vrai, effectivement.
Et la région se démarque aussi par l'utilisation des technologies de communication comme Internet. L'État mène une politique volontariste pour diffuser Internet et apparemment, ça marche plutôt bien.
L'autre valeur ajoutée de l'Himachal Pradesh, c'est son artisanat.
Oui, alors vous avez probablement entendu parler des pashminas. Hein. Moi, ça me fait rêver en tout cas. Hein. Ces châles en duvet de chèvre très fin. On en fabrique là-bas. On travaille la laine en général. On fabrique des beaux tapis. On travaille le métal. Certains artisans réalisent aussi des miniatures exceptionnelles. Alors tout ce savoir-faire étant en déclin, hein, concurrencé par les produits manufacturés, fabriqués en usine. Mais depuis quelques années, il y a un renouveau avec un nouvel engouement venu de l'étranger, notamment pour ces produits de qualité.
Créer de l'artisanat et de l'activité économique, c'est aussi votre job sur place, Stéphane. Avec les femmes, vous faites quelque chose qui sent bon.
Oui, bah, des savons. Voilà. C'est une partie de mon engagement que j'ai envers la communauté locale. Je ne me suis pas dit, je vais arriver en Inde, m'installer dans un beau village et travailler tout seul. Non, ça, ce n'est pas l'idée. Au départ, j'avais la volonté de travailler avec les villageois qui étaient autour de moi. Et donc, effectivement, l'artisanat, c'est avec les femmes.
Et avec les hommes, qu'est-ce que vous faites? Si ce n'est pas indiscret.
Non, merci de me poser la question. C'est la première activité, en fait, dans laquelle je me suis lancé, dans l'Himachal, c'est le trekking, en fait. Donc, de la randonnée, essentiellement dans un parc qui s'appelle le Great Himalayan National Park, qui a une bonne dizaine d'années. Donc, on y organise des trekking. Mais bon, nous avons étendu les activités de tourisme à d'autres choses, comme des safaris, des tours à moto, à vélo. On fait un marathon l'année prochaine aussi dans l'Himalaya pour un groupe de Français. Donc ce genre de choses. Oui.
Dites donc, vous faites des choses étonnantes. C'est polymorphe, hein, de l'artisanat, du social, du voyage, du trek et même du vélo. Mais il faut un mountain bike, j'imagine. Hein.
Il faut un mountain bike,
d'accord.
Effectivement.
Dans cette Inde rurale, Menaka du Mont, où vous vous êtes baladé hein, pendant 5 semaines, hein, votre terre natale, vous avez redécouvert la valeur de certaines choses.
On redécouvre beaucoup de choses en Inde, puisque étant adoptée à l'âge de 2 ans et demi, j'ai passé toute ma vie en Belgique. J'ai toujours tout eu, j'ai eu accès à tout, à une éducation et à toute la situation économique qu'on connaît. Et puis quand on se retrouve en Inde, même si c'est juste pour un voyage, on retrouve la valeur des choses. Tout, même des sentiers, quand il faut prendre une voiture ou un bus, quand il faut demander son chemin, les gens qui vous accueillent, qui vous sourient, c'est tout. Tout qui vous emporte.
Un robinet avec de l'eau aussi,
qu'on
peut boire.
Voilà, un robinet avec de l'eau, une douche peut-être, un frigo. Parce que j'ai eu une toute petite anecdote, j'ai eu l'occasion là-bas d'être accueillie par une Française. Et pour la remercier, je lui dis « qu'est-ce que tu veux que je t'amène ?» Elle me dit « tu peux m'amener du camembert, mais est-ce que tu peux l'emballer dans quelque chose de frigorifique ?» Et je lui dis « mais pourquoi ? Je n'ai pas de frigo !» Donc c'était vraiment quelque chose de fabuleux.
Ouais, ouais. Vous avez depuis trouvé un job, hein, vous travaillez pour l'UNICEF. Avant cela, vous étiez ambassadrice pour la Fondation d'Amiens.
Tout à fait, j'ai eu l'occasion, mon premier voyage en Asie, c'était avec la Fondation d'Amiens, puisque j'étais jeune ambassadrice pendant 2 ans pour l'ONG. Et j'ai eu l'occasion de découvrir le Bangladesh, qui était une première étape, on va dire en Asie, avec la situation du Bangladesh qui est un peu semblable à celle de l'Inde.
La lèpre et la tuberculose existent hein, encore dans ces pays, là-bas au Bangladesh ou en Inde. Et nous allons parler avec Joël Skorils qui nous rejoint en studio. Bonjour Joël.
Bonjour à tous.
Merci d'être là, de nous partager un petit peu votre premier voyage en Inde. Vous êtes allé, vous, du côté de Chennai ?
Oui, on a atterri à Chennai et puis on s'est rendu à Nellore, donc on est dans l'Andhra Pradesh. À part ça, je connais rien à l'Inde, hein, mais effectivement, c'est les premiers pieds que je posais là-bas. C'était un voyage éclair. Hein. On est parti il y a un an pour Action d'Amiens, puisque j'ai eu la chance d'être la marraine de la campagne 2015, et on est resté 3 jours sur place. Donc ce qu'on a fait surtout, nous, c'était pas tellement se gaver de paysages et de rencontres avec des Indiens de toutes sortes, c'est surtout aller voir des malades et les centres médicaux. Enfin, j'ai quand même vu un peu comment ça se passait là-bas.
Et qu'est-ce que ce voyage vous a appris, Joël ?
Oh là là, ça m'a appris tout d'abord à découvrir simplement un autre univers. C'est incomparable avec ce qu'on connaît, tout simplement. Quoi. C'est un autre univers, c'est un autre monde avec d'autres nécessités, un autre esprit de débrouille. Donc ce sont une quantité d'images incommensurables que j'ai ramenées de là-bas. Et puis voilà, aussi une immense misère qui étreint les malades de la tuberculose et de la lèpre qu'on a pu rencontrer. Et ça, c'est soufflant, quoi. J'avais jamais été témoin de ce genre de choses.
Oui. Avec en même temps, j'imagine que vous pouvez peut-être comparer vos expériences, Menaka et Joël, une grande dignité des populations qui combattent la maladie, mais qui sont super positives et très souvent souriantes et engageantes.
Effectivement, parce que même malgré leur détresse et les situations dans lesquelles ils vivent, ces gens sourient tout le temps et viennent toujours vers vous, vous accueillent, sont vraiment spontanés. Des choses qu'on oublie et des choses qu'on ne rencontre pas tous les jours chez nous.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai vécu la même chose au Congo cette année-ci. On est allé à Kinshasa. Et alors, de nouveau, pour aller voir des personnes malades de la lèpre et de la tuberculose. Et c'était la même chose. C'était la même dignité, la même combativité. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas à quel point c'est... ces villages reculés ou ces banlieues tellement compliquées, je pense qu'on n'a pas le choix, il faut avancer. Donc c'est marquant de voir à quel point tout le monde est en activité, tout le monde est dans une énergie extrêmement constructive.
Je vous propose d'écouter quelques secondes des femmes atteintes de la lèpre et qui chantent. C'était dans votre ville natale, à Pondichéry. C'était enregistré au mois de novembre dernier. Tendez l'oreille. எல்லோரும் கொண்டாடுங்கோ கை தட்டி நான் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலையை மறந்து நான் Depuis l'Inde, ces femmes qui chantent et qui ne se laissent pas abattre par la lèpre. Action d'Amiens, c'est ce week-end, si on veut les aider.
Les marqueurs.
Oui, c'est ça, c'est toujours les marqueurs couleurs. Hein.
Oui, c'est ça, les 4 couleurs, ce sont des feutres d'excellente qualité.
Réserver un bon accueil à ces vendeurs et vendeuses ambulantes. Depuis Menaka Dumont, vous avez changé de casquette. L'ONG Action d'Amiens, c'était quand vous étiez quoi, adolescente ?
Tout à fait, c'est sur la fin de mon adolescence. Et puis grâce à cette ONG et au voyage et à la découverte, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de travailler dans ce monde-là.
L'UNICEF
depuis presque 4 ans maintenant, qui travaille dans le secteur de l'enfance, qui est quelque chose qui touche, qui est une cause qui est belle et qui est un boulot qui m'a toujours fait rêver.
Oui, avant de devenir entrepreneur social, de créer votre entreprise, Stéphane Marshall, en Inde, vous avez travaillé aussi pour une ONG. C'était dans les années 2003 ?
C'est ça, j'ai commencé en 2003, mais dès que j'ai atterri en Inde, c'était en fait pour rejoindre une ONG dans un autre état qui s'appelle le Jharkhand. J'ai travaillé avec eux pendant 6 mois et puis finalement... J'ai découvert le monde de l'ONG, mais j'ai surtout rencontré de façon très intime des populations tribales. Et ça m'a vraiment planté quelque chose dans le cœur.
Avec un nom assez sympa, cette
La communauté tribale, c'est les Munda.
Les Munda, les Belges voilà. Du bout du Munda. Et vous avez pu vivre vraiment en immersion avec eux ?
Ah, complètement. Donc je suis revenu, en fait, après un repassage en Belgique. Je me suis dit non, il faut que je retourne et que je fasse autre chose, que je continue dans l'action. Et donc j'ai habité en village, parce que la première chose à faire quand on veut vraiment s'impliquer dans quelque chose de viable au niveau de l'aide au développement, c'est de comprendre, de se mettre dans la peau des gens. Ça nécessite de passer du temps, parce qu'il y a beaucoup d'experts. Moi, le concept d'expert dans l'aide au développement, c'est bien, mais on arrive avec des choses toutes faites. Et finalement, la population, il faut quand même d'abord la comprendre au niveau culturel, économique, etc.
Oui, je lis donc, entre lignes. Ce que vous voulez dire, c'est les ONG, c'est bien, mais il faut parfois créer concrètement sur place des structures indépendantes.
Oui, alors bon, j'ai après ça créé ma propre ONG. Alors, c'est très agréable parce qu'on peut réfléchir avec les villageois au programme qu'on veut faire. Donc au niveau du programme, on a une certaine liberté, mais au final, on reste quand même dans le domaine de l'ONG qui est toujours dépendante en fait, dépendante de revenus financiers qu'elle ne génère pas elle-même, et donc il faut les trouver ailleurs. Et donc on est en permanence à la recherche de fonds. Et ça, c'est extrêmement fatigant et c'est frustrant. Et il y a des moments où c'est pénible parce que le programme est terminé et on devrait continuer, mais les fonds n'arrivent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être que je passe à autre chose ou je revienne dans un secteur où moi-même j'arrive à tenir sur mes deux jambes, générer des finances de façon à ce que je puisse subvenir à mes propres besoins et puis par après aussi aux besoins, générer les fonds pour mon programme social.
Et pour créer de l'emploi, hein, puisque vous faites vivre sur place des hommes qui organisent ces trekking avec vous et puis des femmes qui font du savon, mais aussi de la confiture, des châles, comment on appelle encore les châles en laine de...
Pachemina.
Des pachemins, voilà, très bien. On n'est pas très loin du cachemire, en plus j'imagine qu'il y a des très belles matières aussi.
Il y a de très belles matières, mais bon, nous on essaie de faire avec ce qui est disponible localement. Hein. Donc il y a beaucoup de laine, il y a des moutons, il y a des chèvres. Donc on crée des nouveaux produits en fait. Ce qu'on essaye de faire, c'est se faire une place dans le marché en créant, en innovant. Parce que c'est vrai que les produits, l'artisanat et tout ça de l'Himachal Pradesh, ça reste quand même extrêmement traditionnel. Et si on veut atteindre des marchés plus urbains, plus jeunes, il faut innover. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Oui.
Bonne continuation. On vous garde avec nous jusqu'à 10h. On va vous lâcher, Joël Scorils, parce que vous devez aller vendre des marqueurs, je crois.
Oui, mais voilà, je vais donner un coup de main aux bénévoles. Et bravo à tous les bénévoles, d'ailleurs, qui sont très, très nombreux en Belgique à se battre pour vendre les fameux marqueurs.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Oui, bien sûr.
Bon dimanche, Joël.
Merci à tous, bon dimanche.
À bientôt dans quelques instants sur La Première. Juste après la pub, on se retrouve avec nos Belges du bout du monde en Inde.
9h, 10h,
les Belges du bout du monde sur La Première,
avec Adrien Jouvenot.
Bon dimanche sur La Première à 10h, les décodeurs RTBF avec Alain Gerlache. D'ici là, nous sommes sur le toit du monde avec des expats qui nous épatent, Menaka Dumont et Stéphane Marchal, créateurs d'Himalayan Tourism.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
En Inde, Stéphane Marchal, deux mondes évoluent parallèlement. Il y a l'Inde moderne, hein, Franceline le disait tout à l'heure, avec cette course au développement. Et puis l'Inde rurale avec la Bharat, hein, vous vivez.
Voilà,
c'est une région plus authentique, avec des traditions culturelles préservées. Lesquelles vous ont marqué, vous, venant de Belgique ?
Je dois dire que si ça fait si longtemps que je suis en Inde, ce n'est pas pour l'Inde moderne, pour laquelle j'ai assez peu d'intérêt. Par contre, l'Inde rurale est un milieu qui me fascine. Ce qui me fascine par-dessus tout, c'est la façon de vivre ensemble, en fait. Vivre ensemble, dans le sens, moi maintenant j'habite dans un village, j'y ai construit ma maison, et on m'a dit, voilà, Stéphane, tu fais partie du village, tu es notre... Je suis un frère pour tout le monde, je suis frère, je fais partie de la famille villageoise.
Oui, alors justement, la famille, est-ce qu'elle a la même signification que chez nous ? C'est-à-dire qu'on vit avec sa femme et ses enfants ? Ou bien la famille, la cellule familiale, elle est vraiment dans la cellule villageoise ?
Oui, la famille, c'est énorme en fait, c'est énorme, c'est hyper important. Les valeurs, s'il y a des valeurs en Inde qui ont été préservées aujourd'hui, c'est vraiment les valeurs familiales. Et en particulier en milieu rural, la famille c'est énorme et ça implique toutes les relations dans la famille, l'oncle, le tonton, le petit-neveu, etc. Ils ont tous un nom particulier et donc tout est interconnecté et ça forme un réseau local extrêmement uni. Et donc c'est très solidaire, solidaire.
Ouais. On sent que ce séjour, c'est plus qu'un séjour, cette vie en Inde a donné vraiment un sens à votre existence.
Oui, parce que... Bon, alors, c'est vrai qu'au départ, j'y allais pour travailler pour l'environnement. Mais quand j'ai vu la culture de ces gens en milieu rural, j'ai découvert en fait une façon de vivre qui était en harmonie avec la nature. Et ça, ça a complètement disparu dans les mécanismes modernes de développement, chez nous également. La Belgique, moi, je suis effrayé. Quand j'arrive, à chaque fois, c'est un choc. Maintenant, le choc, il est dans l'autre sens. Et le choc, c'est quand je rentre en Belgique. La société de consommation et cette tout ce matérialisme qui est complètement détaché en fait des ressources naturelles, ça me fait peur parce que je pense qu'on a besoin de cette connexion avec la nature. On a besoin de se rendre compte que quand on consomme, quand on mange, quand on fait ceci, quand on construit une maison, etc., c'est intéressant quand même de savoir que ça implique bah, les ressources qui sont autour de toi. Et voilà, ça maintient une culture qui est très très proche de la nature et qui est vraiment harmonieuse, quoi. C'est vraiment très harmonieux.
Ouais, et là, je crois que vous rejoignez Menaka Dumont dans cette limite qu'on a dépassée, le surdéveloppement de nos pays par rapport à votre pays natal. Menaka, ça vous choque un peu?
Oui, tout à fait. Mais... ça choque toujours, je pense, pas que moi, quand on a l'occasion de voyager un petit peu et de découvrir d'autres pays, notamment l'Inde, de se rappeler les choses et de voir à quel point on est surdéveloppé chez nous, on surconsomme tout. Ça fait peur quelquefois. Mais Stéphane le dit, le choc, je pense, quand on vit à l'étranger et qu'on revient en Belgique, doit être vraiment plus grand que quand on part à l'étranger.
Oui, Francine Beretti, vous avez voyagé en Inde il y a quelques années, mais vous avez ressenti cela aussi?
Oui, alors c'était déjà, comme vous le dites, il y a quelques années. Donc en plus, je pense que l'Inde a pas mal changé depuis. Mais oui, bah, c'est le choc que tout le monde décrit. Je crois que n'importe qui a mis le pied en Inde en venant d'Occident, de pays riches, le ressent. C'est vrai que c'est une grande claque dans vraiment la différence de mode de vie. On est dans la surconsommation ici, certes, mais on a aussi la chance d'avoir accès aux soins, à l'éducation. Voilà, il y a aussi tous ces bons côtés.
Oui, c'est sûr. Et puis, une petite bière en terrasse à XL ou des choses comme ça, ça fait quand même plaisir. J'imagine qu'il y a des choses qui vous manquent quand même de la Belgique.
Effectivement. C'est inévitable, tout à fait. Mais disons qu'on a tellement de liberté en Belgique, de choses à faire, de potes à rencontrer. Ça manque quand on est dans un village en Inde où tout fonctionne au rythme de la nature. C'est le soir, ben, on va se dormir. C'est le matin, on se lève, on recommence la journée. Il y a juste les saisons qui apportent un rythme un peu différent. Sinon, c'est très agréable, mais bon, ça demande un sacrifice aussi, de rester en village, forcément. Aller boire un verre ou aller au théâtre ou au cinéma, c'est plus difficile, forcément.
Ouais. Et surtout que ça coûte cher de revenir en Belgique, c'est pas tous les ans, j'imagine.
Pas tous les ans, non, mais oui, on va le dire tous les deux ans.
Tous les deux ans. Avec votre femme et puis vos enfants. Vous avez combien d'enfants?
J'ai deux enfants, deux petites filles. Oui.
Ouais, qui s'appellent?
Janisha et Joyel.
Eh bien, on en a retrouvé une dans un de vos sujets sur la toile, sur lapremière.be. Regardez ce petit film sur votre entreprise Himalayan Tourisme et la voix de votre fille. Tendez l'oreille.
Papa, mais il est entré dans la maison de la santé comme ça.
Comment ça se passe l'éducation de vos enfants? Parce qu'ils parlent un français remarquable. Ils sont nés là-bas, dans l'Himalaya?
Non, Janisha est née dans le Jharkhand, mais peu importe, c'est un peu le même combat, je dirais. Au niveau de l'éducation, ça commence par les langues. Hein. Et donc, Janisha a une mère, elle a une langue maternelle, donc le hindi, et elle a aussi sa langue paternelle. Et donc, elle a appris le français en parlant avec moi exclusivement. Donc, je suis très content d'avoir une fille qui parle le français juste parce qu'on a discuté ensemble.
Ouais, voilà. Ouais, chapeau. Ouais. Et votre épouse himalayenne, donc elle parle hindi plus, j'imagine, les langues locales. Mais vous parlez ensemble en français, en anglais?
On parle en anglais, ce qui permet à ma fille d'apprendre l'anglais occasion. Ouais. Donc, elle parle déjà trois langues, ça c'est chouette.
C'est beau.
Elle a 5 ans.
Ouais. Oui, c'est pas mal. Hein.
C'est pas mal. Hein. C'est vraiment belle histoire de famille, belle tribu. On a mis les photos en ligne aussi sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Allez-y, Menaka Dumont, l'Inde, elle vous manque? Question inverse.
L'Inde manque, oui et non. Je pense que c'est découvrir les origines qui me manquent, peut-être retrouver et puis me ressentir un petit peu chez moi. Parce que même si je suis belge et que j'ai toujours eu cette nationalité un peu dans mon esprit, me retrouver en Inde, c'est un peu être chez moi aussi. Donc oui, l'Inde me manque de temps en temps, oui.
Ouais, vous êtes passionné de littérature, entre autres. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont rapproché de votre pays natal?
Alors, le premier livre qui m'a donné envie d'aller en Inde, ça s'appelle Pondichéry, évidemment, qui était une histoire écrite, un peu une histoire, une romance sur des gens qui vivaient à Pondichéry. Et puis, ça m'a permis, dans ce livre, de découvrir la ville. Et quand je suis retournée, donc pour la première fois il y a quelques années, j'ai retrouvé les lieux que j'avais lus.
Pondichéry, la ville blanche, la ville noire?
Les deux côtés, évidemment. Donc, j'ai l'occasion de visiter les deux côtés, la ville blanche et la ville noire. Oui, les deux contrastes. D'un côté, le blanc. D'un côté, on va dire, les villas, les maisons coloniales. Et puis, de l'autre côté, l'autre caste.
Oui, et puis les vaches au milieu des rues.
Les vaches au milieu des rues.
Et dans la ville blanche, l'avenue Voltaire ou le quai Dumas.
Dans la ville blanche, tout à fait, des noms de rues qui est assez, je pense, Stéphane pourrait le confirmer, exceptionnel en Inde.
J'en ai jamais vu, des noms de rues Enfin, c'est une note peut-être des numéros de rue. Ça,
eh bien, donc à Pondichéry, effectivement, il y a des plaques et on peut se retrouver facilement dans la ville, ce qui est assez perturbant même. Donc voilà.
On va plonger, nous, dans le dernier best-of d'Étienne Dao pour y pêcher cette petite perle, nage indienne.
9h-10h sur la première.
Les Belges du bout du monde.
Avec Adrien Jovenot.
C'était Étienne Dao sur la première en nage indienne ou en brasse coulée. Nous sommes sur les contreforts de l'Himalaya ce matin avec Stéphane Marchal, Menaka Dumont et Francine Beretti. Ce sont les Belges du bout du monde sur la première jusqu'à 10h.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Dernière ligne droite de l'émission, il est temps d'aborder vos projets. Stéphane Dumont, Belge du bout du monde en Inde depuis 13 ans et avec plein de projets un peu dingues, j'ai vu sur la toile des quiseurs solaires que vous construisez avec des ressources locales. C'est un peu système D là.
Oui, disons que ça fait partie en fait de l'effort social ou environnemental. Donc on a l'entreprise maintenant qui génère des finances, donc Himalayan Écotourisme. Et puis bon, il faut qu'on utilise les fonds à quelque chose de social ou environnemental. Et donc l'idée en fait, c'était de combattre la déforestation, réduire le travail, le labeur des femmes et des enfants qui eux par contre sont en charge d'énormément de choses en fait. Les femmes font presque tout à la maison et notamment aller chercher le bois. Parce qu'il y a l'électricité, mais ça ne suffit pas pour la cuisson, pour le chauffage, etc. Et donc, tout fonctionne au bois. La source d'énergie, c'est le bois. Et les forêts se dégradent. Il y en a de moins en moins. Il y a des feux de forêt. Il y a énormément de problèmes qui s'en suivent. Donc, une façon de répondre à ce problème, c'est de faire des poêles à bois performants, qui consomment moins de bois et qui peuvent brûler d'autres combustibles organiques. Donc, on s'est lancé dans l'entreprise et donc j'ai des ingénieurs, tous volontaires, des Indiens, mais aussi des Français, des Belges, qui viennent et qui travaillent comme volontaires et qui apportent chacun leur petite expertise et on développe des technologies vertes.
Oui, vous nous avez fait rêver aussi ce matin avec votre agence, hein, Himalayan Écotourisme. Est-ce qu'on peut faire, j'imagine que c'est possible, un trek avec vous et comment est-ce que ça se passe? C'est une semaine, c'est un mois, il faut être sportif, il faut être aventurier, il faut être baraqué?
On a de tout, mais si je pense à mes compatriotes, on a 15 jours de vacances peut-être, maximum, pour un voyage de ce genre. En 15 jours, le faire par soi-même, ce n'est pas possible. Donc nous, ce qu'on propose, c'est venez dans l'Himalaya, faites les activités que vous voulez, ça on vous propose. Ça peut être du trekking, mais ça peut être un safari moto, c'est magnifique au Ladakh. Ça peut être un safari en jeep, ça peut être des activités sportives, genre du vélo ou n'importe quoi. Donc sur base de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, bon, on fait un programme. Mais vous êtes pris en charge, on vous prend en charge à l'aéroport à Delhi. Comme ça, voilà, l'hôtel s'est réservé, le train, les voitures, tout ça. Donc, en gros, un circuit organisé, quoi, tout simplement.
Vous pouvez nous mener jusqu'à quelle altitude? Vous avez des Sherpas? Vous avez une équipe autour de vous qui va nous aider à grimper?
Je travaille avec 65 personnes dans Himalayan Écotourisme. Donc, on a rassemblé tous les gens qui travaillent dans le trekking. On les a mis en coopérative, parce que c'est mieux pour eux. Et donc, eux, ils sont tous expérimentés. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et ça se passe très bien. On peut faire du trek partout où vous voulez, dans l'Himachal ou même au Cachemire, le Ladakh, c'est magnifique.
Vos coups de cœur à vous, Menaka Dumont, qui avez parcouru l'Inde du nord au sud.
Le premier est ma ville, évidemment, ma ville d'origine, Pondichéry, par ce côté reposant et ce côté un peu déjà vu pour moi. Et puis le deuxième coup de cœur, il faut le dire, c'est le Taj Mahal, évidemment. Nous avons l'occasion d'y arriver au lever du soleil et la splendeur du bâtiment, le blanc étincelant qui est une des couleurs qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup en Inde. Magnifique, évidemment.
Dans les couleurs de l'Inde, il y a aussi ces drapeaux de prière, on en retrouve dans votre parc naturel?
Pas dans le parc, parce qu'un parc national en Inde implique aucune habitation permanente, donc il n'y a personne dans le parc. Donc c'est pour ça que nous, on doit tout organiser au niveau des tentes, etc., les porteurs, machin. Par contre, ça c'est de tradition bouddhiste, donc il y a Dharamshala, dont on parlait tout à l'heure. Sinon, il faut passer plus dans le nord, vers le Ladakh et Spiti, qui sont tout à fait à la frontière tibétaine. Et là, vous avez des magnifiques monastères bouddhistes qui sont évidemment décorés de ces drapeaux à prière, effectivement.
Ouais, vous avez aussi un coup de cœur dans le pays, Francine Beretti?
Moi, j'avais bien aimé, je me souviens juste me perdre dans les rues des grandes villes, comme ça.
Au hasard.
Au hasard. Ouais. voir les petits commerces, les stands de nourriture, des choses comme ça. Ça m'avait bien marqué.
Oui, nourriture. C'est vrai que, bon, j'imagine que dans votre village, c'est pas aussi varié que dans les grandes villes, mais la gastronomie indienne, on mange de très très bonnes choses. Hein. Menaka et Stéphane, vous pouvez confirmer.
Je confirme.
Oui, tout à fait.
Voilà, mais ce qui nous change par rapport à un régime alimentaire européen, je dirais, c'est si on est dans le nord de l'Inde, dans telle région, eh bien, on va manger tous les jours à peu près la même chose. En gros, c'est effectivement très bon. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des produits de qualité. Il n'y a pas une boîte de conserve, il n'y a pas un micro-ondes. Donc, il faut tout est toujours préparé au jour le jour. Donc, on mange vraiment très bien. Mais c'est un peu toujours la même
c'est
chose.
C'est pas hyper varié.
Voilà.
Ouais. Justement, par curiosité, dans le nord de l'Inde.
Chez moi, c'est des petits pains qu'on appelle les chapatis, probablement que tu connais, parce que les villageois produisent du blé dans mon village, avec un dal, donc c'est une légumineuse, mais là c'est principalement des haricots rouges. Donc le chapati, les haricots rouges, et puis des légumes, plus le ghee. Le ghee, c'est du beurre clarifié en fait. Et ça, donc ça ferme, ça constitue la base de. Voilà.
Oui, c'est spécial.
Oui, c'est spécial. Ça s'arrête là.
J'imagine, vous qui avez travaillé pour Brussels Life aussi à Bruxelles, Menaka Dumont, que vous avez quelques bonnes adresses des restos indiens à Bruxelles. Il y en a des excellents.
Quelques bonnes adresses, oui et non. J'avoue que j'en ai testé plusieurs, mais je n'ai jamais retrouvé vraiment le goût de l'Inde.
Ah, il faut aller sur place.
Alors moi, je conseille vraiment.
D'accord.
Allez-y.
Et elle n'est pas payée par l'Office du tourisme.
Non.
Menaka Dumont, vous travaillez pour l'UNICEF, donc vous voyagez aussi. Vous avez eu d'autres expériences dans d'autres pays du monde un peu surprenants.
Alors, moi, j'ai eu l'occasion de partir en Moldavie l'année dernière. Oui, c'était assez surprenant puisque la Moldavie n'est pas un pays, comme on peut le croire, aussi développé.
J'ai jamais trouvé de Belges du bout du monde en Moldavie.
Hein. Nous n'en avons pas trouvé, mais par contre, on a trouvé pas mal de gens passionnés, des gens qui travaillent pour l'UNICEF, très passionnés, qui travaillent dans des domaines comme la violence infantile, qui travaillent avec le gouvernement aussi pour tout ce qui est l'éducation des enfants, qui est un pays magnifique. Parce qu'en fait, c'est un pays un peu ouvert, comme j'ai pu rencontrer dans d'autres parties du monde. Des gens très ouverts, très accueillants, très souriants, malgré leur situation.
Un peu comme dans le sceptre d'Ottokar. Non, c'est pas dans cette région, Tintin.
C'est tout à fait dans cette région,
c'est
oui.
Tintin en Moldavie. Là, voilà. On était au Tibet, presque, avec vous, Stéphane Marshall. Tintin. Comment est-ce qu'on dit Tintin là-bas?
C'est Tintin.
Tintin, ah, d'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Tintin, d'avoir participé
avec plaisir à
l'émission qui n'est pas encore tout à fait finie. On va jeter un petit coup d'œil quand même sur l'avenir, le futur pour cette région du monde. Comment peut-on l'envisager, Francine Beretti?
Alors, pas trop mal, puisque je vous le disais, la région, cet état indien n'est pas mal classé en tout cas quand on considère le niveau de vie des habitants ou d'autres indicateurs comme le taux d'alphabétisation. Les 7 millions d'habitants de l'état de l'Himachal Pradesh sont parmi les Indiens qui savent le plus lire et écrire, donc c'est important. Et puis les taux de corruption sont relativement bas aussi par rapport au reste du pays, donc la région ne va pas mal. L'enjeu, ça va être de gérer le développement touristique à venir, le maintien de certaines activités artisanales sur place, les enjeux environnementaux, ce que nous décrivait finalement Stéphane, dans votre travail au quotidien, c'est exactement ce que vous faites. Et puis ça vous coule, puisque la région est très très belle. Je vous encourage à aller voir des photos sur Internet, c'est magnifique et il faudrait qu'elle le reste, évidemment.
Allez-y. Si vous tapez écotourisme dans l'Himalaya, vous allez certainement me trouver dans les premiers.
D'ailleurs, on a mis le lien sur la première.be sur la page Facebook des Belges du bout du monde. On vous souhaite un bon retour en Himalaya. Vous avez passé le mois de janvier chez nous pour les fêtes, pour retrouver la famille. Ça va être une émotion, j'imagine, de quitter tout ce cocon familial, mais en même temps, retrouver votre grande famille de cet état du nord de l'Inde, ça fait chaud au cœur en même temps.
Oui, c'est ça. Mais c'est toujours émotionnellement dur de quitter, de revenir, de requitter, de revenir. Ce sont des choses à laquelle on s'habitue finalement, et ma famille s'est habituée aussi. Et donc là, mais c'est vrai qu'on va revenir et puis on va être avec tous ces gens qui nous attendent. La saison prochaine va bientôt démarrer. On va tous se remettre ensemble et voilà, on est parti pour une année en plus.
Je vous voyais sourire en écoutant Franceline qui parlait de votre pays, de cette région belle. Ça vous fait plaisir d'entendre parler ainsi de ce nouveau domicile?
Oui, tout à fait. Bon, maintenant, il y a des problèmes. C'est vrai que l'Himachal Pradesh, par rapport aux autres États, il est bien coté au niveau de l'économie, au niveau alors même de la corruption, même si c'est toujours là, il n'y a rien à faire. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui est perçu en Inde comme un petit peu une île C'est une destination touristique, hein, déjà. Et beaucoup d'Indiens viennent en été se refroidir l'esprit en visitant nos régions, effectivement.
Et on va vous envoyer quelques Belges à la suite de cette émission. Merci beaucoup, Tintin.
Merci beaucoup, merci à vous.
De votre visite, merci Ménaka Dumont.
Merci beaucoup.
Merci Franceline Beretti.
À bientôt.
Excellent dimanche à toutes et à tous sur La Première. Nous serons la semaine prochaine au Pérou chez Grégory Paquet, un jeune Liégeois qui a créé là-bas la Chicra Iquitos, au cœur de l'Amazonie. D'ici là, restez fidèles à La Première. Dans un instant, Alain Gerlache et les décodeurs RTBF.
La Première, podcast.